Umaïto. Umaïto, avec les associations en action, entrez dans la case avec Françoise Wedewea.
Pousser les jeunes à aller plus loin, leur donner les outils pour percer dans leurs études. Parfois, les conditions personnelles peuvent freiner les jeunes et leurs familles dans l'accomplissement de leurs projets d'études. Mais une association met tout en œuvre pour permettre aux jeunes lycéens d'aller au bout de leurs attentes et d'atteindre dans les meilleures conditions la réussite. Et cette association, eh bien, c'est l'association Jules Garny pour un juvénat lycéen. Et pour en parler aujourd'hui, Monsieur Élie Poigoun, président d'honneur et créateur du Juvena, Monsieur Mana, président actuel de l'association, et Monsieur Nawiya, trésorier adjoint de l'association. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans la case. Dans quel contexte avez-vous mis en place ce projet de créer le Juvena?
Oui, dans les années 90, on a constaté avec l'État qui était à l'époque la mission 404 qui était dirigée par François Lebouteux, nous avons constaté que la plupart de nos élèves qui venaient de l'intérieur et des îles, donc du nord et des îles, avaient beaucoup de mal à réussir leurs études secondaires lorsqu'ils venaient dans les lycées à Nouméa, les 4 lycées, grands lycées de Nouméa à l'époque, et ces échecs, ils avaient beaucoup de mal à réussir leur bac et surtout réussir des bacs difficiles, des bacs classiques comme la série S ou L. Donc nous avons pensé que les raisons sont les suivantes. Les raisons, c'est ces élèves qui venaient des îles et de la Grande Terre venaient dans les internats à Nouméa. Et dans les internats à Nouméa, ils n'avaient pas de soutien réellement, de soutien scolaire. De la part des surveillants, on faisait uniquement de la garderie. Et ils n'avaient pas donc la possibilité d'être aidés dans leur travail scolaire. Et puis le week-end, ils sortaient le vendredi soir et ils rentraient chez eux. Et on sait tous que tous ces jeunes, ils sont dans les quartiers populaires de Nouméa où les familles qui les recevaient n'avaient pas la place et le temps pour leur permettre de bien travailler. Donc voilà les raisons essentielles. Nous avons donc pensé à l'époque qu'il était bon de monter une association pour gérer un foyer dans lequel les jeunes pourraient donc bénéficier le soir, en sortant de leur lycée, bénéficier le soir des études surveillées, accompagnées des répétiteurs. Voilà pourquoi à l'époque l'idée a été de lancer donc le juvénat lycéen.
Est-ce que c'était aussi dans le prolongement de l'accord de Matignon qui encourageait aussi la formation des jeunes cadres?
Oui, je pense que ici, pour construire le pays, on a besoin de beaucoup de cadres. Et à l'époque, la mission 404 avait déjà des difficultés à trouver des candidats pour faire des études difficiles, des études d'ingénieurs ou de médecins. Donc, ils ont été à l'origine de cette création parce que il y avait un besoin d'avoir des jeunes qui ont des capacités, des bases solides pour poursuivre des études difficiles et exigeantes.
Donc c'était un des objectifs à l'époque.
Voilà, c'est l'objectif. Donc les partenaires à l'époque, c'est surtout l'État qui a été à l'origine de ça, et puis des personnes membres de la société civile.
C'était un enjeu à l'époque de monter ce genre de structure qui n'existait pas avant. Ça a été difficile d'aller jusqu'au bout.
Ça a été difficile parce que il faut trouver les finances pour ça, parce qu'il fallait absolument faire venir des gens qui viennent de métropole, des retraités, ça coûte de l'argent. Et puis sur le territoire, c'était pas toujours apprécié par tout le monde, parce que on nous faisait le reproche à l'époque de faire de l'élitisme, alors que c'est pas du tout de l'élitisme, c'est permettre à certains jeunes qui ont les capacités de poursuivre des études difficiles de pouvoir le faire et de partir en métropole.
C'était vraiment d'exploiter à fond les capacités des jeunes.
Voilà, je pense que les jeunes, ils ont les capacités comme tous les autres jeunes, mais ils ont un milieu qui n'est pas favorable des fois quand on vit en tribu, on vit de façon communautaire, on n'a pas toujours la place qu'il faut pour faire un travail individuel, un travail de concentration sur la réflexion, sur des choses qui sont difficiles à faire. Donc je pense qu'il était nécessaire d'avoir ces endroits, ces espaces où on donne la possibilité à ces élèves de s'épanouir et d'exprimer toutes leurs potentialités.
Alors, comment ça se passait à l'époque? S'est organisé le Juvénat à l'époque?
À l'époque, il fallait trouver un endroit. Et le seul endroit qu'on a trouvé, c'est en bas de la cathédrale, qui appartenait au petit, un bâtiment qui appartenait aux petites sœurs des pauvres. Mais ça demandait beaucoup d'argent parce qu'il fallait louer le bâtiment à 500, 600 000 par mois, ce qui fait beaucoup d'argent. Et dans ce bâtiment, il y avait donc trois niveaux. Il y a le rez-de-chaussée, puis les deux étages, et on n'avait que la possibilité de prendre que des garçons parce qu'il y a le problème de promiscuité. Et on ne pouvait pas prendre les filles parce qu'il manquait de l'espace pour essayer de séparer un peu les jeunes. Et voilà, on s'est contenté de ça pendant quelques années.
Et la vie des jeunes au Juvénat lors des premières années, c'était comment? J'ai lu un article à l'époque qui disait que c'était un cadre de vie assez monacal. C'est-à-dire assez austère, c'était les études.
Voilà, je pense que c'est un cadre, mais je pense que toujours maintenant, on a axé le Juvénat sur la notion de travail, habituer les jeunes à fournir des efforts. Donc on a quand même un régime assez soutenu de travail, et les jeunes qui tiennent pas le coup, souvent ils se découragent vite. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose, de s'amuser un peu. Mais je pense que si on veut aller au bout, si on veut aller affronter des études difficiles, il faut obligatoirement passer par là. Les amusements, les loisirs, je pense qu'on aura le temps de le faire
plus tard,
voilà.
Alors, dans les années 2000, le Juvénat, il se développe. Mmh. Quels ont été les grands changements qui ont été opérés?
Aude, bonjour. Donc, dans les années 2000, il y a eu la rentrée des filles. Donc, il y a 16 ans que les filles sont rentrées au Juvénat. Et puis après, on a aussi accueilli des nouveaux séries. Avant, c'était la série S. Et là, on a accueilli la série L en 2001. Et aujourd'hui, on a accueilli aussi la série ES. Et tout ça, c'est selon les besoins du territoire. Donc, et puis le grand changement qu'on a eu depuis l'époque, on est parti de la rue Surcouf, comme disait M. Elie, on est parti à Nouville. On s'est installé à Nouville pendant 7 ans, à l'ETFPA. Donc, et puis depuis 12 ans, on est au lycée La Pérouse. Donc ça, c'est un grand changement.
Et donc, ça montre qu'il y a eu une augmentation de la fréquentation du Juvénat. Vous êtes passé à... Au départ, c'était combien d'élèves?
Alors, c'était une quinzaine d'élèves. Hein.
Que des garçons?
Que des garçons.
Et aujourd'hui, on arrive à...
On arrive à 70 élèves.
Garçons-filles.
Garçons et filles. Donc, comme on a des quotas au niveau du lycée La Pérouse, on a 38 filles et 32 garçons.
Il y a plus de filles que de garçons.
Plus de filles que de garçons.
Je vous propose de faire une pause musicale après cette petite histoire sur les prémices du Juvénat et jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose de faire une pause musicale, donc, et on va écouter Straight from the Heart, une belle chanson d'amour de Bryan Adams, qui est un chanteur de rock et qui est également auteur, compositeur et multi-instrumentiste canadien. Et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur NC Première, la radio.
I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say it's
Baïdo avec Françoise Wedewea sur NC Première.
De retour dans la case avec Monsieur Pogoun, Monsieur Mana et Monsieur Nawiya. On parle aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre, de l'association du Juvénat. Donc, pour entrer au Juvénat, il faut une sélection des élèves. Vous faites une sélection des élèves. Comment se passe cette sélection et sur quels critères vous vous basez en fait pour intégrer les élèves?
Oui, pour intégrer les élèves au Juvénat, on fait appel à tous les collèges du territoire. Donc cette année, l'année dernière, on a reçu une quarantaine d'établissements parce qu'on a on a beaucoup d'élèves, 47 élèves de 3e.
Et de tout le territoire?
De tous les territoires, aussi bien privés que publics. Et les critères de sélection sont les suivants. Il y a critères pédagogiques. Donc on prend les meilleurs des élèves. Et aussi, il y a aussi le critère du comportement. Donc on regarde bien les bulletins des élèves, l'appréciation des professeurs. Donc cette année, on a recruté à 14. 14 de moyenne, et puis il y a aussi au niveau des... Et puis on a recruté une trentaine, vous voyez, entre 60, donc il y a la moitié. Donc ceux qui sont juvéniles, ils ont vraiment la chance d'être retenus.
Donc
il y a de bons élèves, il y a encore de bons élèves qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on est limité en nombre de places.
De places, c'est ça. Et donc c'est un peu une sélection sur dossier.
C'est une sélection sur dossier.
Donc en fait, c'est vous, par an, vous recrutez combien d'élèves? Parce que pour les 70 places, il y en a qui sont déjà en première, terminale. Donc voilà. À chaque nouvelle rentrée, il y a combien de quotas d'élèves qui est réservé pour les secondes?
Donc pour chaque, c'est par rapport aux critères du Juvénat, pas de redoublement. Donc il y a des élèves qui redoublent, donc on ne va pas les prendre. Il y a des élèves qui vont changer de filière. Je vous ai dit tout à l'heure les trois filières principaux. S'ils prennent autre filière, on ne peut pas les prendre non plus. Et il y a tous les élèves de terminale qui partent et puis on les recrute. Donc cette année, on avait pris une quarantaine de... une trentaine d'élèves.
De nouveaux élèves.
De nouveaux élèves.
Et donc, par quel moyen d'action vous mettez, de quel moyen d'action vous mettez en place justement pour pousser l'élève à atteindre l'objectif qui est la réussite? Monsieur Nawiya, peut-être?
Les moyens qui sont mis en œuvre, comme Monsieur Poigoun vous a parlé tout à l'heure des répétiteurs. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un suivi individuel de chaque élève par les répétiteurs. Donc on les a, ils sont là, les répétiteurs sont là pour aider les enfants de la seconde à la terminale pour travailler. Et puis donc c'est il y a un système d'études en fait qui est mis en place. Donc les jeunes sont en études tous les soirs de 19h à 21h30. Toute la semaine, sauf le samedi. Et puis, ils ont aussi, en plus de ça, le mercredi après-midi. Ils ont études aussi le mercredi après-midi, plus le mercredi soir. Et ensuite, ils ont études le samedi matin, donc 3 heures d'études le samedi matin, ce qui fait en tout une vingtaine d'heures.
En plus des cours.
En plus des
cours. Ça fait pas beaucoup pour eux. Ils sont pas surmenés de faire autant de... d'études comme ça, les élèves.
Non, je ne crois pas qu'ils soient surmenés parce qu'en fait, il y a l'objectif, c'est de les amener au bac, au baccalauréat, pour qu'ils puissent réussir le bac avec des mentions pour pouvoir intégrer
des grandes écoles,
l'école de médecine et ainsi de suite. Et voilà, c'est ça, et aussi leur préparer en fait à aborder les études supérieures. Donc en fait, ils apprennent les matières du secondaire, mais en même temps, ils apprennent la façon d'ensuite d'aborder les études supérieures. Donc c'est pas du tout du surmenage, quoi.
Puis le cadre, il est agréable aussi, les répétiteurs sont là aussi pour les aider là-dessus.
Oui, oui, il y a les répétiteurs qui sont là, ils interviennent pour les aider.
Un répétiteur, on peut dire que c'est un tuteur? Un petit
oui,
peu.
Il y a des répétiteurs dans toutes les matières principales. Hein. Les matières principales, les maths, la physique, la SVT, le français, l'anglais, puis même sciences éco. Donc il y a histoire géo. Donc c'est il y a un professeur, hein, ce sont des professeurs, des retraités, c'est des professeurs qui ont donc l'habitude d'être avec les élèves, qui ont une habitude pédagogique à parler aux élèves. Donc vraiment, je pense qu'ils ont, ils ont un cadre idéal pour réussir leurs études. S'ils ne réussissent pas, c'est soit un peu, ça vient de leur part, mais nous, on a essayé de leur donner tous les...
Toutes les meilleures, les, conditions,
meilleures
possibles.
Conditions possibles.
Alors justement, les répétiteurs, ils viennent d'où ? Est-ce qu'ils sont d'ici du pays ou est-ce qu'on les fait venir de métropole ?
Oui, il y a des répétiteurs expatriés, c'est-à-dire qui viennent de métropole. Donc cette année, on en a recruté 11. Ils vont venir à partir de ce soir. Donc ils sont logés dans les tours de Magenta. Mm-hmm. Donc on a 11 appartements dans les tours de Magenta, on les loge. Et puis ils ont eu un bus pour aller au niveau du lycée La Pérouse pour assurer leur étude. Donc comme disait M. Eli tout à l'heure, ce sont des profs retraités. Il y a aussi des professeurs locaux qui viennent nous aider, qui sont retraités, et puis il y a aussi qui sont en exercice. Mais eux, ce ne sont pas des permanents, ils viennent quand ils
le peuvent. Il y a un besoin.
Voilà, on a une dizaine.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a une bonne équipe d'encadrement au niveau
du juvénat
le soir.
Ce sont des personnes qualifiées.
Et puis ce sont des personnes aussi qui se donnent, parce que la base du travail, c'est le bénévolat.
Donc tous ces répétiteurs-là ne sont pas payés. Ils n'ont aucune rémunération pour le travail qu'ils font, qu'ils soient d'ici ou qu'ils arrivent de métropole.
Voilà, qu'ils soient d'ici ou qu'ils arrivent de métropole. Pour ceux qui viennent de métropole, on leur paye l'aller-retour pendant un an, le logement. Et puis le repas quand ils sont en service au niveau du lycée...
La Pérouse.
Au niveau du lycée La Pérouse. Et c'est tout, sinon ils travaillent bénévolement.
Voilà, je voulais juste ajouter quelque chose à ce que dit René, là. Voilà. C'est vrai que c'est de l'engagement, quoi, personnel, et je pense qu'ici, il faut qu'on s'habitue un peu à ça. Il y a beaucoup de, les gens, ils veulent travailler pour de l'argent, mais du travail comme ça, c'est vrai qu'on n'a rien, mais le salaire qu'on a, c'est, d'avoir le plaisir le soir d'avoir aidé les élèves, d'avoir consacré une partie de son temps, de son énergie et puis même de sa vie. Et c'est cela qui fait plaisir, parce qu'on voit que l'élève il progresse. Et donc il progresse, en même temps ils apprennent des connaissances, mais en même temps ils ont une autre manière de voir la société, parce qu'ils voient qu'il y a de l'aide, il y a des gens qui s'investissent pour eux, donc ça leur laisse des traces dans leur vie plus tard.
Alors il y a deux valeurs que le juvénat porte, donc le travail et le respect. Comment cela se traduit au quotidien ?
Oui, alors pourquoi on a mis ces valeurs au début ? C'est parce que dans la culture kanak, je voudrais l'insister dessus, dans la culture kanak, il y a le respect, ce qu'on appelle le respect du sang, c'est un respect qui est fondé sur le fait que dans une famille, il y a une fille qui arrive, qui se marie, elle amène son sang. Et il y a un grand respect de l'oncle maternel, du clan maternel, donc c'est le respect du sang, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie. Et donc on voudrait qu'au niveau du juvénat, cette notion de respect continue à se perpétuer par l'intermédiaire des jeunes, pour leur dire que quand ils sont là-haut, ils sont pas tout seuls, ils sont avec d'autres gens qui sont engagés aussi dans la cité, et ils doivent les respecter. Ils doivent respecter les élèves avec qui ils sont dans les lycées, ils doivent respecter les professeurs, les surveillants qui sont là pour eux, ils doivent respecter les répétiteurs et même l'association du juvénat, les gens qui sont engagés là-dedans. Et plus que ça, ils doivent respecter les bâtiments, tout le matériel qu'il leur est donné à disposition. Il faut qu'ils respectent tout ça, parce que ces bâtiments qui sont là, c'est le fruit du travail des hommes, c'est le sang des gens qui sont derrière tout ça, parce qu'il y a des gens qui payent, qui sont les parents, qui sont les gens qui sont engagés dans la cité, qui versent de l'argent pour qu'il y ait tous ces bâtiments qui sont autour de nous et qui sont autour des élèves. Et donc, ils doivent respecter tout ça. C'est important parce que celui qui ne respecte pas ça, celui qui ne respecte pas celui qui est à côté de lui, ben, ça va lui porter tort dans sa vie. C'est ce que nous apprend la culture kanak, qu'il faut respecter celui qui est en face, parce que celui qui est en face, c'est un homme, c'est quelqu'un qui appartient peut-être à une chefferie, et on n'a pas à le piétiner comme n'importe qui, comme un morceau de bois, donc on doit le respecter comme tout être humain. Voilà un peu pourquoi on a mis ça comme valeur essentielle du juvénat, et derrière tout ça, parce que respecter la vie, on ne respecte pas uniquement comme ça. Respecter la vie, quand on prend une femme venue d'ailleurs, ben, il faut le respecter, il faut travailler dur pour que ce sang qui arrive dans un endroit ben, se développe, grandisse et soit meilleur. Donc il faut un travail derrière pour être à la hauteur de la vie qui nous est donnée à tous. Donc c'est ce qu'on dit aux élèves. Vous portez la vie sur vous, c'est le sang qui appartient peut-être à un clan, à une chefferie, mais il faut être à la hauteur. Et la seule manière d'être à la hauteur, c'est de travailler dur et d'être bien dans son corps, dans sa tête. Voilà un peu pourquoi on fait tout ça. C'est la philosophie qui accompagne le travail qu'on fait. Et je pense que ça donne des bons résultats au niveau des élèves. Ils ont des résultats scolaires, mais en même temps, ça donne des jeunes qui sont épanouis, des jeunes qui savent où ils veulent, qui savent donner un sens à leur vie pour qu'ils ne soient pas
perdus. Voilà. Ben merci M. Poagoun pour cette petite leçon de vie. Donc on parle des élèves, on parle du juvénat, mais la place de la famille dans tout ce système-là, elle est où, M. Naouya? Les parents d'élèves ou...
Alors, il y a une association des parents d'élèves donc du juvénat. Donc, ils ont, tout au long de l'année, ils ont un certain nombre d'actions qu'ils organisent. Et notamment, par exemple, ils sont là pour accueillir les répétiteurs, leur montrer comment les choses se passent et ensuite partager avec eux. Donc, il y a des activités qui sont faites pour ça. Mais il y a aussi des activités, ils sont là aussi pour, on parlait tout à l'heure des temps de loisirs pour les jeunes. Donc, les parents d'élèves organisent, par exemple, juste avant la période des examens, une sortie avec l'ensemble des jeunes du juvénat. Pour qu'ils
puissent détendre.
Voilà,
peu.
Juste avant les examens. Donc voilà, c'est. Aussi, ils s'organisent aussi des repas avec les répétiteurs, avec les membres du bureau, etc. Et ensuite, nous, dans le bureau, on insiste beaucoup sur le rôle des parents dans la formation des jeunes. C'est-à-dire que les parents doivent s'impliquer davantage et. On les sollicite de venir nous aider, par exemple, le soir. Il y a les répétiteurs qui sont là pour accompagner pédagogiquement les enfants. Mais on a besoin des parents pour surveiller un peu les études. Et surtout que les enfants ont besoin de savoir que les parents sont là derrière, quoi, avec le bureau, pour nous aider à les amener là où on veut les amener.
C'est un soutien pour les élèves, mais aussi pour le juvénat.
Oui, pour les juvéniles.
Quel est le taux de réussite des jeunes qui entrent au juvénat?
Ben, je vais vous citer des chiffres, et puis après je commenterai ces chiffres-là. Donc depuis, par exemple, 2012, donc on a eu 80% de réussite. 2013, 94, 2014, 100%, et 2015, 93%. Donc ça veut dire que pour le juvénat, donc la réussite, on peut faire passer les élèves au niveau du bac. Mais comme disait M. Naouya tout à l'heure, l'objectif du juvénat aussi, c'est de les préparer à poursuivre des études. Donc on s'est aperçu qu'on a à peu près réussi de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, on a fait un annuaire des anciens du juvénat, on a recensé 300, il y a plus, plus de 400 élèves, on a recensé 300. Et dans ces 300-là, beaucoup occupent des postes à responsabilité. Donc ça veut dire que le travail du Juvena, c'est de faire passer le cap du bac, mais aussi de les préparer pour les grandes écoles, puis les préparer pour réussir, pour qu'ils puissent réussir leur cursus universitaire.
Donc c'est ça, en plus des deux valeurs que sont le travail et le respect, c'est leur donner des outils, une méthodologie pour pouvoir poursuivre, assurer dans les études supérieures. Parce que les études supérieures, c'est un autre stade. C'est encore plus difficile que quand on est au lycée. Donc le Juvena apporte ça aussi. Sur votre site internet, justement, vous lancez un appel aux anciens élèves du Juvena pour qu'ils se manifestent. Pourquoi c'est important que ces jeunes qui ont pu bénéficier du programme de cette structure-là, le Juvena, reviennent et se fassent connaître? Quel est le...
Oui, je pense que nous, on est un peu déçu là-dessus, parce que beaucoup de nos jeunes qui ont réussi leurs études, ils viennent pas. On aimerait bien que ce qu'ils ont reçu pendant des années, les aides qui ont été données par le Juvena, mais même par le territoire, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un retour maintenant vers les jeunes. Et on a besoin d'eux pour venir encourager nos jeunes, ne serait-ce qu'en étant présents certains soirs de la semaine. Parce que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des exemples, des gens qui sont médecins, qui sont engagés dans la vie de la cité, ils ont besoin d'avoir ça. Donc voilà, on encourage ces jeunes-là qui ont réussi, qui sont maintenant à Nouméa et puis même dans le Nord, on les encourage à venir ne serait-ce que rendre visite un peu à nos élèves un certain soir de la semaine.
Oui.
Je voulais juste rajouter, les anciens ou une association des anciens du Juvena, il serait bien qu'ils réactivent cette association. Bon, M. Paboul a parlé tout à l'heure de qu'ils viennent devant les élèves du Juvena, tant que modèle et tout. Mais aussi, nous, on est là, les membres du bureau, on est là. Mais à un moment ou à un autre, il faudrait que ces jeunes prennent
la relève.
Prendre la relève.
Oui, on n'est pas tous éternels. L'appel est lancé. Donc les anciens du Juvena, si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, le Juvena a besoin de vous maintenant. Donc manifestez-vous auprès du bureau. Tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr. On va parler un petit peu du nerf de la guerre. Comment fonctionne justement cette structure qui a maintenant, qui a cette année 25 ans?
Alors, moi, je vais, M. Pagoun, compléter. Je suis rentré au Juvena il n'y a pas tellement longtemps. Donc, en fait, le Juvena fonctionne sur des systèmes de subventions. Donc, je profite ici pour remercier l'ensemble des bailleurs. Donc, parmi les bailleurs, il y a les institutions, il y a l'État, les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui participe à ça. Ensuite, vous avez les collectivités, donc on fait appel aux collectivités, notamment les communes. Et à côté de ça, vous avez également, on fait appel aux privés, les entreprises privées. Et en plus, nous avons, et ça je souligne, ça c'est la participation du lycée La Pérouse. Parce que sans le partenariat qu'on a mis en place avec le lycée à La Pérouse, on ne pourrait pas fonctionner. Tout à l'heure, on avait évoqué la location du surcoût face à 600 000 par mois. Et là, le lycée à La Pérouse nous met à disposition des locaux, les bureaux des deux secrétaires, les salles d'études, etc. Donc là aussi, je tiens à remercier le lycée à La Pérouse et son proviseur de nous avoir mis à disposition.
Donc voilà, c'est les partenariats avec les institutions. Oui. Également, il y a des subventions privées également, non?
Oui, il y a pas mal d'entreprises de la place qui sont engagées. Il y a par exemple une société, la SLN, qui a été au début, à l'origine aussi du Juvena, parce que la SLN s'est associée avec l'État pour lancer ce projet. Et il y a d'autres entreprises, il y a les trois entreprises minières, il y a d'autres entreprises peut-être qui ont relâché un peu leur soutien financier ces dernières années.
Mais ils ont été là aussi.
Voilà, ils ont participé à un moment donné au financement du Juvena.
Merci. Alors, Monsieur Poigoun, il est un des créateurs du Juvena, mais je voulais poser la question à Monsieur Naouya et Monsieur Mana. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans cette structure-là? C'est si vous êtes parent ou Monsieur Naouya?
Alors moi personnellement, je suis parent, mais je suis pas parent d'enfants au Juvena. J'ai des parents. En fait, c'est moi, je me suis lancé dedans parce que c'est un engagement personnel. Je pense que on a tous nos activités et il faut se donner un peu de temps pour dans le bénévolat et notamment dans la formation des jeunes. Et c'est ça qui me pousse. D'autant plus que moi aussi je suis enseignant et je pense que les échanges que je fais avec nos jeunes du Juvena aussi les aident parce que je suis dans le supérieur, donc les aident à pouvoir affronter le supérieur après. Mais au départ, c'est vraiment un engagement personnel.
Monsieur Mana?
Moi, c'est pareil. C'est une démarche personnelle. Donc, je suis parti au niveau du Juvena parce qu'il y a Monsieur Eli qui était là. Et puis, parce qu'il était déjà prof au lycée La Pérouse. Et nous, on était encore élèves. Donc, c'est un petit peu suivre l'exemple. Et puis aussi, il y a cet engagement personnel que j'ai pris. Au départ, j'étais surtout au niveau des études à Montrevel. Après, je suis parti en tant qu'enseignant parce que je travaillais à la SLN. Donc, il y a aussi cet engagement personnel au niveau des élèves. Et je pense aussi que quand on avait reçu, parce qu'il y a très peu de jeunes Kanaks qui ont eu la possibilité d'aller en métropole faire des études, il m'a semblé logique, il faut partager un petit peu le savoir et puis il faut s'investir un petit peu plus au niveau des jeunes générations.
Alors justement, on parle chaque année d'échecs scolaires, notamment après le bac, lorsqu'on aborde les études supérieures. Il y a beaucoup d'abandon, mais quel est votre regard sur cette situation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus pour améliorer cette situation en tant qu'homme qui a travaillé, œuvré justement dans ce domaine-là? Chacun peut donner son avis. C'est Monsieur Poigoun.
Oui, je pense que l'échec scolaire est toujours trop important actuellement. Il faut qu'on se batte tous, mais ça se réduira pas comme ça en restant assis, en restant les bras croisés. Je crois qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Tout le monde s'engage à son niveau et je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel derrière, ce sont les parents. Je pense que les parents doivent se persuader que c'est eux qui sont, c'est leur travail est essentiel. Il faut qu'ils entourent les gamins parce que ces gamins, ils ont besoin d'être entourés au niveau de la famille et d'être soutenus. Et à partir du moment où il y a ça, je pense qu'après, on peut envisager plein de choses. Mais je pense qu'il y a un gros travail au niveau des parents. Voilà, mais la situation évolue. Je pense moi je suis quelqu'un de positif. Je pense que le territoire, on parle beaucoup d'échecs scolaires, des jeunes qui sont un peu à la dérive. Il y en a, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui réussissent, qui font que on doit être optimiste et que le territoire avance bien. Et je suis quelqu'un qui est très optimiste pour l'avenir parce qu'on a les jeunes qui sont passés au Juvena ou ailleurs dans les lycées sont des jeunes extraordinaires, pleins de dynamisme et ils ont envie de faire quelque chose dans leur pays.
Monsieur Naouya?
Oui, je vais dans le sens de Monsieur Pagoun. Je pense que il faut pas regarder les jeunes comme un problème. Je pense qu'il faut regarder les jeunes comme un atout. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Et il faut leur donner des outils à nos jeunes pour pouvoir réussir. Donc, vous voyez, un des outils, c'est ça, les jeunes qui ont réussi, leurs études, ça fait partie des modèles et on fait appel à ces jeunes-là pour dire venez parler de vos expériences aux jeunes qui sont dans les Juvena, mais pas uniquement dans les jeunes du Juvena, mais
dans les familles,
dans les au campus des îles, ailleurs. Ça sert. Il faut aussi d'autres structures comme le logiciel, mais c'est une bonne structure parce que tout à l'heure, je disais, c'est aussi l'apprentissage de la pré-bac, le juvénat, ça fait partie de ça. Et puis le rôle important, c'est les parents. C'est comme dit M. Pogoun. Si les parents ne prend pas en charge la salle dès le départ, forcément. Donc,
l'enfant va.
Mais c'est une affaire de tous. La réussite scolaire n'est pas uniquement les parents, n'est pas uniquement. C'est une affaire de tous.
Monsieur Mana.
Moi, je pense que tout a été dit. Je vais dans le sens aussi de ce que M. Pagoun et M. Naouya disaient, c'est que l'enseignement, c'est l'affaire de tous. L'éducation, c'est l'affaire de tous. À partir des parents, au niveau des enseignants, et puis au niveau de la société. Je pense que au niveau de... Il y a la base de tout ça, c'est le travail. Il faut que chacun s'y mette. C'est un travail personnel qu'il faut s'engager. Et puis, je pense qu'il faut sacraliser l'éducation. L'éducation, les écoles. Je vois des tas dans les écoles. On était vraiment... Ben, je suis vraiment désolé, mais il faut essayer de sacraliser tout ça parce que c'est quand même la base de la société.
Alors, il nous reste 2 minutes. Peut-être je vais demander à l'un de vous de faire passer un petit message rapidement avant qu'on termine cette émission. Juste un mot d'encouragement pour cette jeunesse-là qui va reprendre le chemin de l'école.
Oui, non, je pense que les jeunes, ils ont des problèmes des fois, ils ont des moments de découragement, des moments de déprime, mais je pense qu'il faut qu'ils pensent qu'ils ont toute leur vie à construire et il faut les construire sur des bases solides. Et je pense que l'enseignement qui leur est proposé ici, c'est quelque chose d'essentiel. Ça leur permet d'accéder à la connaissance, d'être meilleurs. Je pense que ces jeunes, ils doivent se dire qu'ils doivent faire tout leur possible pour être meilleurs chaque jour. Et je pense que en faisant cela, ils arrivent à vaincre toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie et puis à faire en sorte que la société est meilleure.
Merci pour ces belles paroles, en espérant que ce soit entendu par cette jeunesse. Merci à tous les trois d'être venus dans l'émission Oumaïto. Merci pour cet exemple de réussite, d'encourager la jeunesse à se dépasser et de prouver qu'à force de travail et de respect, les portes sont grandes ouvertes pour atteindre la réussite. Merci encore. À suivre sur NC Première, la radio, votre séquence en éventail de 13h à 16h. À 13h, John Gop vous emmène à la rencontre de Monsieur David Outiou, ancien président du district de Ouagap. À Point-Dimy, il nous fait découvrir l'univers qu'il s'est créé depuis plus de 80 ans. Et puis de la musique pour vous détendre tout au long de cet après-midi, pour vous ravir, vous égayer à l'approche de la rentrée. Vous aurez du local avec Oumagé, Gourejele, Nord Musical Band, de la variété française, de l'international. Enfin voilà, il y en aura pour tous les goûts. Sur NC Première, la radio, alors restez avec nous. Et puis bien nous, on se retrouve demain pour la dernière émission d'Oumaïto de l'été. On parlera de la protection des tortues marines avec l'association Boara. D'ici là, portez-vous bien. À demain, bon après-midi sur NC Première.